Vous écoutez Entrepreneur Too, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui marque également le début de la saison 2 de l'émission. Alors je suis votre hôte, Donny Jeep. Et avant d'accueillir mon invité, juste un petit mot rapide pour vous annoncer qu'Entrepreneur Too évolue. Le podcast est maintenant propulsé via Podcastix, on va dire que c'est un peu son niveau hub. Et vous pourrez bien sûr l'écouter sur vos plateformes préférées, ce que vous êtes d'ailleurs probablement en train de faire. Mais la grande nouvelle, c'est que l'émission passe à partir de ce mois-ci au format mensuel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais mettre en place pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais pas indépendantes de ma santé. Je n'ai pas pu le faire avant. Et là, avec 2020 qui débarque, eh bien, c'est chose corrigée. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Lorinda, créatrice et rédactrice du blog Antias Room. Donc, bienvenue Lorinda. Bonjour à toi.
Bonjour, merci.
L'émission, alors c'est vrai que je ne le dis pas tout le temps, mais là, on profite que ce soit un peu le nouveau format, ben, un peu pour, on va dire, se chauffer. On va faire un niveau un peu tutoriel. Donc au lieu de parler directement de comment tu parles du jeu vidéo et comment tu le mets en valeur sur ton blog en l'occurrence, bah, parle-nous un petit peu déjà de toi, de ton parcours, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, comment es-tu arrivé là? Donc voilà, c'est un peu le niveau tutoriel.
Ok, alors donc moi je m'appelle donc Lorinda comme tu l'as dit, donc j'ai 28 ans. Dans la vraie vie je suis bibliothécaire et ce blog je le tiens depuis 6 ans. Avant, il existait sur une autre plateforme qui était Overblog, et après, je l'ai déménagé. Et voilà, depuis 6 ans, il est sur WordPress. Et là-dedans, en fait, c'est un peu mon carnet de bord culturel. Je présente tout ce qui est mes découvertes en jeux vidéo, mes découvertes en littérature, en musique, en cinéma. Enfin, ça aborde plein de thématiques variées. C'est pensé un peu comme l'extension de mes passions. Enfin, j'ai choisi Antias Room parce que Room, c'est la chambre. Donc, en gros, c'est une extension de ma chambre privée, entre guillemets, quoi. C'est vraiment extension de mes passions, de ce que j'aime. Et je suis venue à ça ben, parce que tout simplement, j'aime beaucoup écrire de base. J'écris des textes de fiction. Et après, ben, le blog, c'est une autre manière d'écrire et qui me permet aussi d'alimenter cette pratique-là. Et puis voilà, enfin, j'aime, après, même dans mon métier, j'aime bien partager tout ce que je découvre en littérature, vu que je suis bibliothécaire. Et du coup, c'est aussi un peu hein, une continuité logique, c'est partager mes passions, ce que je découvre, ce que j'apprécie, mes réflexions aussi, parfois des analyses. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à là.
Justement, bah alors tu parlais de ton métier, justement, donc t'es bibliothécaire. Le choix de ce métier-là, alors des fois on choisit pas toujours, hein, on fait comme on peut, mais bon, il y a quand même des velléités. Donc toi, c'est un choix qui est arrivé assez rapidement. T'as toujours été comme ça, assez jeune, à être intéressé vraiment par... l'aspect culturel et enfin, multiculturel, parce que je te fais en tout cas multimédia, dans le genre où, comme tu le dis dans ton blog, et ça on va en parler plus tard, il est vraiment pas que axé jeux vidéo, il était même pas axé jeux vidéo à l'origine, mais je pense qu'on va le dire plus tard.
Oui, bibliothécaire, c'est un métier que j'ai quasiment toujours voulu faire. Enfin, de base, je voulais être dans les livres. D'habitude, enfin, à leur venir, c'était plutôt l'édition, puis après, bon, l'édition s'est bouchée, donc je me suis dirigée vers ce qui me plaisait le plus ensuite, donc c'est la bibliothèque. Donc, vraiment, toutes mes études, elles ont toujours été axées en ça. J'ai fait un DUT métier du livre, bon, bah, métier du livre. Ensuite, j'ai passé une année à l'étranger en Erasmus, en Hongrie. C'était aussi axé métier du livre. Et le master, c'est pareil, informatique et patrimoine. Donc voilà, j'ai pas dévié de ma voie, c'était défini depuis des années.
D'accord, ouais. Enfin, ado, c'était vraiment quelque chose qui a mordu de suite, quoi.
Ah oui, carrément, enfin... Il y a des enfants, tu les grondes parce qu'ils passent trop de temps sur la console ou à jouer dehors. Moi, c'était je lisais trop, donc voilà, c'est fait.
On te punissait parce que tu lisais trop, en fait, c'est ça?
Oh non, mais bon, c'était vraiment ma passion principale. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup ça étant gamine.
D'accord.
Et je continue.
Et donc justement, oui, parce que dans ce métier-là, et je pense qu'on en parlera aussi plus tard, mais il y a quand même un grand moment dans la fois de gérer des collections, mais aussi de mettre des collections donc, à disposition, d'avoir un côté... médiateur en fait culturel, donc ça c'est quelque chose aussi que t'aimes beaucoup, enfin, t'as pas que le côté pour toi, ça aussi le côté partage je suppose.
Oui, ah oui carrément, parce que autant tout ce que je lis, je joue, bon je le fais d'abord pour moi, pour des expériences, pour découvrir des nouvelles choses, pour toutes les émotions que ça transmet, mais après j'aime effectivement beaucoup en parler aux autres, transmettre le même enthousiasme, la même passion, faire découvrir des nouveaux aspects. C'est, ouais, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et puis, ben, le blog, c'est un bon média pour ça, quoi. Ça sert aussi en tant que médiation de la culture pour partager, axer sur des nouvelles choses, faire découvrir plein de jeux vidéo qui sont reliés à des livres, à de la musique différente, donc c'est le média parfait en fait pour ça. Bon, autant que les podcasts ou YouTube aussi, hein, ça marche dans ces sens-là.
Oui, bah, chaque chose, chaque outil, on va dire, a ses spécificités, mais après c'est toujours aussi entre la forme et le fond. D'ailleurs, justement, je rebondis ce que tu disais à parler des bibliothèques. Tu disais qu'à l'origine, justement, tu avais été intéressé plus par l'édition avant de filer en bibliothèque. Non, mais ça m'interpelle parce que ça racontait trop ma vie puisque je suis pas le player tout, mais c'est vrai que moi aussi, je suis donc bibliothécaire. Et moi aussi, comme toi, en fait, j'avais envie à l'origine de partir dans l'édition. Et puis quand j'ai vu un petit peu les débouchés et tout ça, je me suis dit, bon, allez, on va prendre un truc un peu plus safe. Et on va prendre la fonction publique et les médiathèques territoriales. Ça a été vraiment ça pour toi aussi? Qu'est-ce qui, dans l'édition, en fait, t'intéressait? C'était le côté peut-être de découvrir et de mettre en avant, mais de manière encore plus active, peut-être?
C'était vraiment ça, c'était découvrir des nouveaux romans, des nouveaux auteurs, et puis me dire ensuite, voilà, ils vont partir pour être édités, comment on les met en valeur, comment ça se choisit. Enfin, c'était vraiment cet aspect-là qui m'intéressait beaucoup. Et puis, oui, éditeur, après, ça touche aussi à pas mal d'autres choses, parce qu'il y a tout ce qui est l'illustration aussi qui joue avec. Tu as aussi le côté manuel, fabrication du livre, comment on crée une maquette de livre, etc. Ça, c'était intéressant aussi. Mais bon, comme tu dis, c'est des secteurs qui sont très bouchés. Donc, moi aussi, je me suis détournée vers la fonction publique.
Ouais, parce que justement, la création, on parlait de création, alors tu parlais d'écriture, donc ça, j'espère qu'on va développer un petit peu. Mais juste avant ça, quand on parle des jeux vidéo, il y est quand même de moins en moins, et c'est pas malheureux, mais c'est un peu dommage, parce que moi j'aime bien toucher les choses aussi. C'est le côté objet, en fait. T'as ce côté objet, tu parlais de la chambre, même si là c'est une chambre virtuelle sur le blog, mais par rapport chez toi, t'aimes ce côté collection, on va dire physique, toucher les différents documents.
Oui, tout à fait. De toute façon, déjà les livres, c'est flagrant, parce que t'aimes bien avoir l'objet physique avec la couverture, le texte selon son alignement, les chapitres, éventuellement les illustrations. Et c'est vrai qu'au niveau jeu vidéo, c'est pareil. Enfin, je préfère mille fois avoir le boîtier qu'avoir la version numérique. Bon, c'est pas toujours possible selon comment c'est distribué ou pas. Mais ouais, il y a quand même un aspect collector. Et puis ça se voit de plus en plus, là, toutes les éditions spéciales qui sortent des jeux vidéo maintenant, où ils fournissent des storyboards, ils fournissent les CD de musique, parfois les vinyles, parfois des statuettes. C'est quand même un aspect vraiment très très appréciable. C'est pas juste du coup quelque chose de virtuel qui est projeté sur ta télé le temps de quelques heures. Ça reste concret et physique, effectivement.
Mais il y a l'objet, ouais, c'est ça, il se renvient à la culture, ce côté un peu caverne aux merveilles, en fait. C'est ça qui te plaît aussi.
Ah oui, tout à fait. Puis oui, c'est pas du tout la même chose de voir une étagère virtuelle avec le truc que tu possèdes que de voir ton étagère avec tous les titres de PS4 ou PS2 qui sont alignés. Il y a un côté collection qui joue beaucoup. Et puis, ouais, je sais pas, c'est un sentiment de satisfaction personnelle, hein, tout simplement.
Bah oui, je comprends. Ouais. Et puis après, avec le côté, on parle de bibliothécaire, mais pas que, mais parce que bibliothécaire, il y a aussi l'aspect conservation du patrimoine. Tu disais que tu avais fait un master en patrimoine. Quelque part aussi, qui se pose toujours la question avec le dématérialisé, c'est comment en fait on les stocke et comment ils restent. Et enfin voilà, tu vois, il y a ce côté aussi de la conservation qui se pose, qui peut être très intéressant et qui peut être problématique aussi.
Ah, déjà, au niveau personnel, c'est problématique parce que, bon, comme moi par exemple, j'ai l'abonnement PS Plus sur la PS4. C'est vrai que le jour où de l'arrêter, bon, ben, tous les jeux que j'ai collectionnés grâce à ça ils disparaissent totalement. Et ouais, c'est vrai qu'aussi, on se dit, le jour où ils décident d'arrêter tous leurs services en ligne, de streaming ou quoi que ce soit pour une autre raison, bon, ben, c'est pareil, on n'a plus accès à des tas de choses différentes. Et déjà, pourtant, il y a plein de jeux, ils sont pas... Enfin, tous les anciens jeux, tout ce qui est plutôt côté rétro gaming ou vraiment les tout petits qui sortent en faible quantité, il y en a déjà plein qui ont disparu, c'est vrai.
Rebondir sur ce que tu disais aussi au niveau des études, parce qu'en fait, quelque part, la culture aussi, ça demande une ouverture d'esprit quand même, quand on veut vraiment s'imprégner de tout, et donc d'être curieux, en fait, la curiosité, c'est hyper important. Et en parlant donc de curiosité, donc tu l'as dit rapidement, mais j'aimerais rebondir là-dessus, tu as été faire donc une année en Erasmus, et souvent Erasmus, on pense de l'Espagne, alors c'est pas pour parler de l'auberge espagnole, hein, mais ou l'Angleterre et tout ça, donc toi tu étais en Hongrie, qu'est-ce qui a motivé ce choix et qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as découvert sur ce pays qui n'est pas la destination première à laquelle on penserait en Erasmus?
Alors effectivement, quand je suis partie, en fait, on avait trois choix en Médive, on peut aller en Espagne qui est très très classique, ou en Hongrie ou en Roumanie. Et en fait, du coup, j'ai choisi la Hongrie déjà parce qu'on avait un professeur qui venait là-bas de temps à l'université à Nancy où j'étais. Donc, on avait quand même déjà un point d'ancrage qui était déjà présent, qui facilitait les démarches. Et aussi, ben, tout simplement, parce que la Hongrie, je pense que des trois destinations, c'était la dernière vers laquelle je serais allée en temps normal, en tant que touriste, quoi, on va dire. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Du coup, c'est vraiment le côté expérience totalement différente et inconnue. Et puis, ouais, voilà, c'est ça qui m'a motivée. En fait, j'aime bien vraiment le côté inconnu. Et puis, l'Espagne, c'est tellement classique. Après, moi, je suis déjà aussi allée en Espagne plusieurs fois dans le cadre des vacances. Donc, du coup, ça m'attire un peu moins. Il y a moins l'aspect découverte. Et oui, après, il y avait aussi simplement le programme là-bas qui me plaisait parce que je continuais certes les études directement liées au livre, mais après, j'avais le droit de piocher dans différents cours qui étaient là-bas, de culture du pays, continuer l'apprentissage des langues étrangères, faire des cours de littérature anglaise. Enfin, il y avait des tas de choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire, en fait, puisque quand tu es en DUT métier du livre, t'es cadré un peu comme au lycée. Tes matières, elles sont posées, tu peux pas faire de choix ou d'options quasiment. Et moi, du coup, c'était un aspect que j'avais encore jamais expérimenté. Je voulais aussi pouvoir un peu peut-être ça côté vraiment à la fac. Et après, ce qui m'a beaucoup plu dans le pays, on parlait anglais là-bas, je ne parle pas hongrois couramment. J'ai appris quelques mots d'hongrois, mais c'est tout. Ouais, c'était vraiment découvrir une culture dont on n'a pas du tout l'habitude dans les pays de l'Est. Ils sont quand même encore vachement marqués par le régime communiste. Donc déjà, tu sens que l'empreinte du passé, c'est pas du tout la même. Ils n'ont pas forcément le même caractère que du côté occidental. Et ouais, c'est aussi un pays qui est empreint de culture là-bas aussi. Ils ont toute leur littérature hongroise qui est intéressante à découvrir. Ils sont aussi très calés côté musique. Il y a tout le temps de la musique, des opéras, des comédies musicales là-bas. Et c'était vraiment passionnant à découvrir. Ils n'ont pas les mêmes références historiques que nous aussi. Donc c'est vraiment toute une autre culture, un autre point de vue à apprendre. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu là-bas.
Ouais, donc c'était une année plus qu'enrichissante, d'après ce que t'en dis. Alors après, donc quand t'es revenu, je suppose que c'était le moment de travailler. C'est à quel moment, justement, que t'as commencé peut-être à travailler et que t'as lancé le blog, t'avais lancé ton blog avant de commencer à travailler? Ça s'est passé comment, en fait, le lancement du blog, de manière générale, sans parler de jeux vidéo, quand tu parlais, parce que voilà, comme tu l'as dit au début, c'était beaucoup plus sur les livres et tu parlais aussi de la musique et t'as découvert un peu de tout ce qui est opéra. Parce que t'es aussi axé sur opéra, c'est un truc qui est très intéressant parce que sur les blogs, des blogs spécialisés, mais sur des blogs un peu comme ça, culturels, généralistes, enfin, généralistes, c'est pas généraliste, mais qui touchent un peu tous les sujets, on trouve assez rarement des opéras, et toi, t'as vraiment une partie assez développée en opéra. Donc ça s'est passé comment, un peu tout ça, comment t'as lancé déjà l'idée du blog, et qu'après, il s'est étendu.
Alors du coup, le blog, quand je l'ai lancé, donc ça fait 6 ans, donc à ce moment-là, j'étais encore dans les études, c'était avant de travailler, effectivement. C'est la continuité d'un autre blog, avant qui était hébergé sur notre plateforme. Bon, j'ai viré la plupart des articles, j'en ai gardé que quelques-uns. Du coup, quand je l'ai lancé, c'était la continuité. Donc au début, c'était surtout les livres. Effectivement, la musique, il y avait déjà un peu d'opéra, je crois. Alors, du coup, je vais répondre à ta première question. Donc comment ça s'est passé, le virage littérature plus jeux vidéo? Alors, jeux vidéo... J'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais petite et ado, puis après, en fait, au moment des études, j'ai totalement arrêté, quoi. J'avais juste un PC portable qui n'était pas du tout pratique pour jouer aux jeux vidéo, et puis même à l'époque, ça ne m'intéressait plus beaucoup, donc en fait, j'ai complètement arrêté à ce moment-là. Et ensuite, à un moment, quand j'ai commencé à travailler, du coup, là, on entre dans la période où je travaille, c'était un an ou deux après le lancement du blog. J'ai donc une amie que tu connais, Eve Delot, là, qui tient le blog Little Gamers, qui a vu que j'avais la frousse devant les films. Et à un moment, on a regardé Silent Hill en film. Et elle a eu la bonne idée de m'acheter Silent Hill 2. Donc là, j'étais obligée de me plonger dans la vie à ras-le-corps pour essayer de la vaincre. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai adoré Silent Hill 2 en tant que jeu vidéo. Bon, déjà, le côté horrifique, ça m'a plu, tel qu'il est exploité dans le jeu. Puis il y a tout le côté psychologique. En fait, du coup, ça m'a fait redécouvrir le jeu vidéo d'un autre œil. Je me suis aperçue, ah oui, en fait, dans les jeux vidéo, il y a des ambiances qui sont vraiment assez dingues et puis qui t'immergent totalement dans un autre monde. Et à partir de là, je me suis dit, bon, déjà, je vais continuer les Silent Hill pour voir un peu de quel bois est le reste de la licence. Et puis après, à partir de là, je suis totalement retournée aux jeux vidéo. Donc voilà, en gros, je peux lui dire merci parce que c'est grâce à elle.
Donc ouais, donc c'est assez amusant quand tu parles des jeux d'horreur parce que justement, quand on regarde tes différents billets, il y a beaucoup de jeux qui sont des jeux survival horror. Et donc ça donne l'impression que t'es quelqu'un en fait qui adore ce genre-là, donc c'est assez ton anecdote assez amusante parce que j'aurais jamais cru que justement c'était quelque chose qui te faisait flipper à l'origine. Avant de parler vraiment des jeux vidéo, même si on a commencé à le faire, Pour tout ce qui est le reste, tous les autres aspects culturels, c'est vraiment donc une volonté de ta part quand même de garder ça côté pluridisciplinaire, pour employer les grands mots. Quelle ligne directrice tu as quand tu écris au niveau du blog et au niveau des sujets sur lesquels tu vas écrire? Comment en fait, quel est ton process avant qu'on ait le billet sous nos yeux?
Donc le process au niveau des articles du blog, ça va dépendre de l'article. Donc en fait, il y en a des réguliers qui vont être là tout le temps. Les livres, ce sera tous les mois, donc ça c'est vraiment, c'est systématique en fait. Au fur et à mesure du mois, je me fais la liste des livres que je lis et ensuite j'écris à la fin du mois l'article et je le publie ensuite. Par contre, quand ça va être le jeu vidéo, bon déjà ça va dépendre du jeu vidéo en soi, ça va dépendre aussi de l'affinité que j'ai pour ce jeu-là. Parce qu'il y en a certains, je vais plus facilement trouver une résonance, soit je l'ai vraiment beaucoup apprécié au niveau affectif, donc du coup je vais plus analyser côté émotionnel, ressenti, les thèmes que ça m'a évoqués, les engagements que j'y ai trouvés. Après, il y en a d'autres, je vais directement faire le lien avec la littérature. Par exemple, j'avais fait ça avec le steampunk et Alice Madness Returns, parce que là, c'était directement lié au genre littéraire. Et après, il y a certains jeux, j'ai pas forcément grand-chose à dire dessus, du coup, ça va plus être un peu sous forme de test, mais c'est vrai que ça, je le faisais un petit peu au début, mais plus maintenant. Maintenant, j'essaie vraiment de privilégier les articles qui sont plus thématiques, émotions. Je suis vraiment plus dans l'analyse de qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ce jeu-là, qu'est-ce que ça m'a évoqué, quel engagement j'y ai trouvé, parce que simplement, c'est ce qui m'attire le plus quand je fais un jeu vidéo. Tous les médias que j'y aurais trouvés, la musique, la direction artistique, le scénario, les personnages, tout ça, en fait, tout ça, c'est une histoire. Et c'est ça qui me passionne dans le jeu vidéo comme dans les livres, en fait. C'est d'abord, on me raconte une histoire et qu'est-ce que cette histoire, elle m'évoque, qu'est-ce que ça me fait ressentir, quoi ça me donne envie de m'intéresser ensuite également, si jamais je veux creuser le contexte, le sujet. C'est vraiment ça, le point du jeu vidéo que je décortique un petit peu dans mon blog, en fait. Donc ça, c'est côté jeux vidéo. Après, pour les autres articles, franchement, ça dépend des moments et de l'année. C'est beaucoup plus aléatoire. Il y en a certains sur la musique. Il suffit que j'ai un coup de cœur sur un CD pour me dire « bon, ben, je vais essayer de proposer mon interprétation, ce que j'ai ressenti ». Pour ce qui est des films, ça va être... Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait pour les films, je crois. Ce sera plus, oui, effectivement, pareil. Une lecture de l'émotion que ça a dégagé, de ce que j'ai ressenti pendant ce film. Les séries, ça va dépendre aussi. Des fois, je vais me pencher un petit peu plus côté histoire et thème engagé. Des fois, ça veut être juste l'ensemble, le suivi des personnages. Voilà en gros comment ça se passe. J'ai très rarement des plans fixés pendant l'écriture des articles. Il n'y a que quand je fais des très gros articles, comme bah, pareil, le steampunk et The Order 1886. Là, j'avais un plan super détaillé parce que je devais placer tel et tel élément, un peu comme une note de synthèse, en fait. Là, c'était vraiment très, très détaillé. Après, c'est vrai que sinon, en général, j'ai des grosses idées de parties, des titres. Et après, en fait, c'est au fil de la plume. Je rédige au fil de la plume à chaque fois.
Mais ouais, mais d'ailleurs, c'est ça que j'avais pas vraiment dit quand on a parlé au début dessus. Mais on retrouve en fait ce que tu disais, puisque tu parlais que tu avais commencé en fait par l'écriture de la fiction. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Parce qu'effectivement, il y a un côté très littéraire. Je ne sais pas si c'est de la fiction dans ce que tu écris, mais c'est pas une plume journalistique. Il y a vraiment ce côté plus littéraire, bon, personnel, évidemment. Dans ce côté d'aller rechercher l'émotion, ce que ça engage chez le joueur, le lecteur, le spectateur, et le retranscrire comme ça, il y a ce côté justement un peu quelque part de l'auteur aussi qui fait ça quand il crée sa propre histoire. Donc comment t'as commencé à écrire de la fiction et comment tu le goupilles? Ça, tu l'as expliqué avec le blog.
Alors oui, effectivement, je suis incapable d'avoir une écriture journalistique. Enfin, j'ai pas les critères en tête pour, et je suis pas du tout douée pour dire... tel graphisme est supérieur à un autre, ou tel gameplay, je ne l'aime pas spécialement par rapport à un autre, ou il est mal fichu. Enfin, ça, je n'ai pas du tout les critères techniques, on va dire, pour le dire. Enfin, il y a des jeux rétro que je trouve super beaux, alors que, bon, les graphismes, ils sont dépassés, c'est super pixelisé, etc. Mais c'est pas grave, tant que l'ambiance me plaît, je passerai outre les graphismes, outre le gameplay qui est lourd, comme dans les premiers Silent Hill, où c'est, le personnage, c'est un tank, il va en avant, mais il peut pas vraiment reculer. Enfin, c'est... Peu importe ça. Et oui, effectivement, tu as raison, la fiction, ça doit influencer la façon dont j'écris et dont je le perçois, parce que, du coup, effectivement, un jeu vidéo, c'est une histoire avant tout, donc je pioche les émotions dedans. Comme un auteur, il écrit avant tout, pour moi en tout cas, pour faire passer des personnages, une histoire, des émotions, parfois des motifs ou des thèmes plus engagés. Et du coup, alors, comment j'ai commencé à écrire moi, c'est-à-dire que quand j'étais gamine, ado, bon, j'écrivais des histoires qui étaient un peu comme tous les auteurs, je pense, le font au début. qui sont des copier-coller de ce que tu as lu à droite, à gauche. Enfin, tu t'appropries le texte des autres pour le réécrire, et c'est comme ça que tu commences à écrire en général. Les premiers textes, c'est que des copier-coller de ce que tu aimes, en fait. Ça n'a aucune gloire, hein, absolument pas. Et ensuite, après, je pense qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on commence déjà, le fait d'écrire, ça te donne ton propre style. Tu commences à savoir comment tu tournes tes phrases. Tu t'inspires toujours plus ou moins du style d'un auteur, mais petit à petit, tu finis par trouver ta façon d'écrire. Après, la façon dont j'ai continué, une fois que j'ai fait ces premiers textes brouillons qui ne servent jamais à rien, je suis allée vers la fanfiction, et là, en fait, ça rejoint le jeu vidéo, parce que mes premières fanfictions, c'était sur Lara Croft, Tomb Raider, les premiers Tomb Raider, en tout cas. Donc du coup, ça m'a bien aidé aussi à faire mes armes en écriture. Ensuite, je suis partie sur des nouvelles diverses et variées, plutôt de la fantasy. Après, je suis partie sur des projets qui n'ont jamais trop abouti, des textes qui n'ont jamais eu de fin, que j'ai commencé mais qui n'ont jamais été terminés. Et après, ce que j'ai fait une dernière énorme fanfiction d'un roman de Victor Hugo de Notre-Dame de Paris que j'aime beaucoup. J'ai fait une séquelle de fan, quoi, qui est malgré tout le texte dans lequel j'ai beaucoup travaillé mon style. Il a duré plusieurs années, donc quand je le relis maintenant, je vois l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure. Et puis après, là, en ce moment, j'écris des nouvelles de mon côté seul. J'écris un texte à quatre mains aussi. Et voilà, je continue dans ça maintenant, en fait.
Tu comptes, parce que c'est une question qui peut paraître stupide, mais en général, on dit oui, des fois, on écrit pour soi, mais bon, on a toujours les velléités aussi d'être édité. Tu as déjà proposé à des éditeurs, puisque tu parlais de travailler dans l'édition un jour. Tu as déjà proposé ou pour l'instant, tu attends encore? Enfin, comment ça se passe là-dessus?
J'ai déjà proposé, mais ça n'a pas abouti. Et puis, prochain texte sur lequel je travaille, je pense que... Je le proposerai aussi. C'est un texte à quatre mains aussi, donc on proposera aussi.
Parler de l'aspect analytique, tu as toute une section analyse en fait, donc ça peut être des comédies musicales, littérature, il y a aussi donc avec un peu jeux vidéo avec le Steampunk et The Order 1886, qui est un article que je conseille vraiment parce que je trouve qu'il est vraiment super bien pour découvrir le Steampunk. Celui-là, il est très, comme tu as dit, il est très détaillé et on sent qu'il y a vraiment effectivement un gros travail de recherche derrière.
Il y a eu beaucoup de temps de recherche sur celui-là, beaucoup de temps de recherche et de lecture.
Ça se sent, ça se retranscrit bien en fait à la lecture, enfin je trouve. T'as vraiment ce côté analytique sur tout type de choses, donc ça rejoint ce que tu disais. Tu parlais de F. Delof, qui tient aussi donc un super blog qui s'appelle Little Gamers, tu l'as dit. Mm-hmm. Et vous avez lancé déjà un truc qui s'appelle le Gaming Challenge. Est-ce que tu peux en parler? C'était en 2018, je crois.
Alors, le Gaming Challenge, ça faisait suite à un autre challenge qu'on avait lancé avant, qui était le Watching Challenge. On avait défini une liste, enfin des critères de films à regarder pendant une année entière, en fait, donc à peu près 4 films par mois pour justement s'aventurer à découvrir des films dont on n'avait pas l'habitude. Et pour le Gaming Challenge, on a fait exactement la même chose. On avait établi 12 critères, par exemple RPG de plus de 50 heures, jeu vidéo indépendant, un jeu qu'on peut platiner, un jeu qui est inspiré d'un autre support comme la BD ou le roman. Enfin voilà, on avait établi pas mal de critères comme ça, pareil, pour s'aventurer à sortir un petit peu de notre zone de confort, pour découvrir des choses dont on n'aurait pas eu l'habitude. Et ouais, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place conjointement, et ça nous a permis du coup de découvrir 24 jeux, plus ou moins prévus selon les critères choisis dans notre propre liste de jeux à faire, évidemment. Et ça nous a permis d'en découvrir pas mal, et puis de trouver des jeux dont on n'aurait jamais eu l'idée auparavant. Et ça aussi, c'est pour montrer aussi à quel point le jeu vidéo, il est diversifié, qu'on n'attend pas non plus les mêmes choses chacun de se plonger dans un jeu, et de montrer aussi comment on envisage aussi les choses chacun de notre point de vue. Jeu indépendant, par exemple, je sais que Eve Delo, elle en faisait très peu, du coup ça lui a permis d'en découvrir. Et moi, par exemple, je sais qu'il y avait certains jeux comme Kingdom Hearts, que j'avais toujours dit « Oh, je le ferai un jour », mais j'ai jamais eu le temps ou j'ai jamais eu l'occasion. Du coup, ça m'a permis de le glisser dedans, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réitéré parce que c'est vrai que ça prend du temps. Ça demande quand même de faire un jeu par mois. Donc après, ça dépend du rythme auquel on joue. Mais dès qu'il y a un RPG qui se glisse et qu'il faut faire 60 heures, ça commence à devenir compliqué, c'est sûr.
Oui, parce que si tu mets du Kingdom Hearts, je crois que tu avais fait aussi The Witcher 3 dedans, donc ça va taper assez loin dans la durée.
C'est ça, oui. Mais c'était quand même super intéressant. Et puis oui, il y a quand même un côté fun de voir qu'est-ce que l'autre a fait pendant ce mois-ci, à quoi elle a joué, comment elle a ressenti ce jeu-là. Des fois, je crois qu'on a au moins une fois un jeu, on s'est croisé sur le même jeu, donc c'était aussi intéressant de voir les ressentis différents.
Oui, parce qu'en fait, on trouvait vos avis, ben, le tien sur ton blog et le sien sur le sien. Donc, c'était croisé. D'ailleurs, après, vous avez fait des top 10, je crois, jeux vidéo et jeux marquants, en fait, que vous avez croisé aussi pour ce côté un peu de partage, en fait.
Oui, ça, on l'a fait. On s'est défini un top 10 de jeux vidéo. Je pense que le top 10, ça a déjà changé depuis. Enfin, c'était à prévoir. Et oui, c'est ça, on se faisait chacune notre liste en précisant les raisons, pourquoi. Des fois, c'était affectif. Des fois, c'était juste la dernière découverte qui nous avait plu ou vraiment des jeux qui nous ont marqués. Et ensuite, on s'est vus et puis on s'est échangé les jeux pour chacun jouer un petit peu sur ceux de l'autre, en fait. Donc ça, c'était vraiment aussi drôle à faire.
Mais ouais, après, il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu dis, justement, c'est et qui transparaît dans le blog, même si au début, il y a pas mal de choses au niveau de l'horreur, c'est qu'en fait, tu as quand même ce côté, et pas que pour le jeu vidéo, hein, mais de curiosité et d'ouverture. On dit souvent qu'on manque de temps, alors c'est pas forcément vrai, c'est qu'on prend peut-être pas le temps.
On prend pas le temps plutôt, oui.
Plutôt, hein. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut avoir ce réflexe à rester un peu dans notre zone de confort. Donc toi, c'est vraiment quelque chose qui te motive toujours. Ça revient peut-être ce côté d'aller en Hongrie, en Erasmus et tout ça, mais de vraiment ouvrir, ou le fait d'être bibliothécaire, s'ouvrir à différents genres et cette période de sortir de zone de confort, de curiosité, pour toi, c'est quelque chose quand même qui est vraiment primordial dans ta manière d'être par rapport à la culture.
Ah oui, c'est super important parce que, enfin, on sait que le temps nous est limité, on pourra pas jouer à tout, ni tout lire, ni tout regarder, mais bon, plus que jamais, on a plein de choix maintenant sur à quoi on peut jouer en indépendant, en triple A, etc. Du coup, c'est bête de pas en profiter, puis de pas se dire « Oh, je vais tester ça juste parce que le résumé m'a intrigué, mais même sans aller regarder comment il est noté ou s'il a eu des mauvaises critiques, mais vraiment juste parce qu'il y a un décor qui nous a intrigué, parce qu'il y a un élément de l'intrigue qui nous plaît, ou juste une petite ambiance comme ça. » Et c'est dommage parce que ce serait passer à côté de super découvertes à chaque fois, en fait. Parce que, par exemple, A Plague Tale, j'achète très peu les jeux au moment où ils sortent, mais celui-là, c'est un des rares que j'ai acheté au moment où il est sorti, justement parce que, en fait, je n'avais vu que des trailers, je n'avais même pas lu l'histoire, mais juste le trailer, l'image, l'ambiance, la musique, la direction artistique, ça m'a vraiment accroché. Et je me suis dit, ça risque d'être un jeu qui me plaît, alors que, bon, de base, le Moyen-Âge, certes, c'est une période que j'aime bien, mais pas plus qu'une autre, et puis j'en savais vraiment pas plus sur l'histoire, mais celui-là, si j'avais refusé de sortir de cette zone de confort, j'aurais pas découvert, et pourtant c'est un super jeu aussi, en fait. Et c'est pareil pour le survival horror, finalement, c'est le fait de se dire je sors de mes sentiers battus pour essayer des choses qui d'habitude me feraient peur ou me feraient reculer, et puis au final m'apercevoir que l'expérience en vaut la chandelle, et ça vaut le coup, enfin. Des fois, je suis un peu contradictoire, c'est-à-dire que plus un truc est bizarre, plus je vais aller voir ce que c'est, justement, donc quand tu parles de curiosité. Que des fois, à un moment, je me suis rendu compte dans les jeux vidéo, quasiment dès que t'as un personnage qui est un peu sombre, un peu frappé de folie, c'est pas grave, je vais voir le jeu, je vais l'acheter, je vais tester, ça m'intéresse de voir comment c'est traité. Alors que bon, c'est souvent des jeux un peu sombres et horrifiques, justement, mais voilà, plus c'est bizarre, plus c'est intriguant, et puis... Tu reviens à te demander pourquoi le créateur a voulu que ce soit ainsi, pourquoi il a choisi un tel degré de décalage par rapport à ce qui se vend bien actuellement, et c'est ça qui est passionnant aussi, quoi. Et ça se retrouve surtout dans le jeu vidéo indépendant, où pour le coup ils prennent vraiment plein de risques et plein de directions variées au niveau de la narration, au niveau de la musique, de la façon d'écrire les personnages. On a What Remains of Edith Finch. C'est vraiment un jeu qui prend plein de parties prises au niveau de la narration, qui choisit une narration à chaque personnage, alors que bon, le sujet de base, il paraît quand même pas très attrayant, ni même très joyeux, puisqu'on voit tous les membres de la famille qui décèdent les uns après les autres. Et c'était un pari de rendre ce jeu-là aussi intéressant, puis aussi artistiquement magnifique, quoi. Et c'est pareil pour plein d'autres jeux que j'ai pu faire et que j'ai découvert ainsi. Ben, pareil, Everybody Has Gone to the Rapture, typiquement, c'est... Bon, j'aime pas le terme walking simulator, parce qu'il y a plein de walking simulators qui sont finalement très bien. C'est la même chose, faut prendre le parti pris, tu vois jamais ton personnage, tu sais pas vraiment ce que tu fais dans l'histoire, tu te contentes d'écouter des conversations de gens qui ne sont plus là. Là aussi, c'est vraiment quelque chose de différent, qui vaut le coup d'être découvert, mais de base, sur le papier, tu présentes ça, t'es pas sûr que ça va marcher.
Ouais, justement, donc dans toute cette approche-là, t'as toujours ce côté, justement, d'aller vers le côté... univers, ambiance et donc narration, quoi. C'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que, d'après ce que tu me dis, t'es quand même plus quelqu'un qui est dans cette recherche-là que dans le gameplay, qui est finalement, tant que le gameplay n'est pas un frein à tout ça. Ça va pas te déranger si le gameplay n'est pas hyper développé du moment que toi t'es happé en fait par un univers, quoi, une histoire, des personnages.
Ah oui, totalement. Totalement. Parce que c'est vrai que le gameplay dans les jeux indépendants, des fois, quand même, bug un petit peu. C'est pas le plus aisé à prendre en main, mais du moment que l'histoire est prenante, qu'il y a des mystères dans la narration, ça entraîne quand même à le faire malgré tout. Et c'est pareil dans les jeux d'horreur, surtout les anciens, le gameplay, que ce soit Resident Evil, les premiers ou Silent Hill, le gameplay, il est réduit volontairement, bon, déjà pour justement que tu n'ailles pas t'amuser à tuer tous les monstres, mais aussi pour te mettre en situation d'inconfort et de malaise. Donc ça fait partie de l'esprit même du jeu. Donc justement, il y a même des fois où la mécanique du gameplay, elle sert à maintenir une certaine ambiance ou un certain sentiment d'insécurité chez le joueur. Donc ça fait partie, en fait, c'est ça, pour certains.
On va pas définir tout ce qu'il y a sur le blog, je laisse les auditeurs et les auditrices aller faire un tour dans ta chambre, en tout cas cette chambre-là, hein, évidemment, pas la véritable version. D'ailleurs, il y a un côté qui est assez amusant aussi sur ton blog, c'est que quand on va dans la catégorie « à propos », tu te racontes parce que tu aimes, mais tu ne racontes pas trop sur toi. D'ailleurs, même au niveau de ton avatar, c'est un avatar qui est justement un côté un peu mystérieux, chambre, culture et tout ça, qui est un très joli artwork. Alors je crois que c'est un artwork de Laura Sava, qui est une illustratrice.
Oui, c'est ça.
Et donc justement, voilà, t'es quelqu'un quand même aussi d'assez timide, où c'est vraiment un choix de vraiment pas mélanger, on va dire, persona sur le blog et personnalité.
Ça vient d'abord du fait que je suis réservée, je suis pas quelqu'un qui se met en avant d'habitude ou qui mène les conversations, donc là c'est une première pour le coup. Et oui, enfin c'est ça, je suis plutôt de ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent, donc ça se ressent effectivement dans mon écriture. Dans le « à propos », déjà c'est quand même difficile de se décrire soi-même sans que ça parte dans l'autodérision ou sans que ça parte dans le côté un peu, un peu hautain ou un peu trop éloquent. Enfin, moi en tout cas, personnellement, c'est une écriture que j'aurais du mal à gérer, je ne saurais pas comment le faire en restant moi-même et en même temps que ça me convienne comme style. Parce que j'ai essayé plusieurs présentations différentes et finalement j'ai laissé tomber, je me suis contentée de présenter ce que je faisais sur le blog parce que le reste, j'y arrivais pas, quoi. Et sur Twitter, bon, c'est pareil, je suis un peu discrète, mais c'est vrai que je préfère plus parler de ce que je vois ou de ce que je découvre ou plus partager les créations d'autres plutôt que parler de ma petite vie qui est un peu la vie de tout le monde quand même, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel, finalement.
Bah après, ça, c'est je m'en comporte. Je pense qu'on a tous des choses qui font qu'on est exceptionnel, comme ils disent dans la pub Werther's Original, tu sais, avec le grand-père et son petit-fils qui donnent un caramel. Mais je sais pas pourquoi je cite cette vieille pub-là qui ne doit plus passer à la télé, mais je ne regarde pas la télé. Et ma vie, on s'en fiche un petit peu. Pour en revenir à toi, j'ai vu récemment, parce que tu as un compte Instagram aussi, alors c'est pareil, alors c'est pas le même pseudo sur Instagram. Pourquoi d'ailleurs, en fait, c'est un compte que tu as créé après, avant. D'ailleurs, je t'ai pas demandé pourquoi Antia aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, Antia ?
Antia, tout simplement, c'est une héroïne d'un texte que je n'ai jamais fini, tout simplement. C'est un personnage que j'aimais beaucoup, et puis j'ai jamais pu le porter à son paroxysme dans l'écriture, et du coup, après, je l'aimais bien, Antia, donc je l'ai gardé par affection, comme ça. Après, au niveau de comment je l'ai créé, c'est un prénom inventé, hein, qui n'existe pas, donc je pense que ça se voit. En anglais, Aunt, c'est hanté, donc c'était un personnage de sorcière, mais qui a été passé dans un monde parallèle, je crois. Et en fait, sa présence hantait sa famille sur Terre, qui était sans nouvelles. Donc voilà pour l'histoire. Et je l'ai juste gardé par affection. Et Instagram, du coup, je crois que je n'ai pas mis Antia parce qu'il était déjà pris. Enfin, il y avait un problème à ce niveau-là. Et du coup, je cherchais quel autre pseudo je pouvais mettre. Et à ce moment-là, j'avais fini le DLC Blood and Wine de The Witcher 3. Et dedans, il y a eu un personnage féminin qui s'appelle Sianna. J'ai adoré parce qu'il est super badass, un côté assez manipulateur et qui en même temps est assez fragile aussi.
Je confirme, oui, effectivement, c'est un personnage qui est merveilleusement bien écrit, qui est très ambigu, qui a beaucoup de différentes couches et c'est un merveilleux personnage. De toute façon, le jeu en termes d'écriture est merveilleux.
Oui.
Je laisserai les gens lire ton super texte à ce sujet. Hein. Je dis texte parce que finalement, je reviens un peu en arrière, c'est pareil, je fais backtracking. Parce que finalement, tu vois, t'as pas ce côté, je te parlais un peu au début des côtés test, tu n'as pas, t'es vraiment plus dans le texte. C'est quelque chose aussi que tu as envie de continuer à développer dans ce sens-là, véritablement. T'as jamais fait notation, en fait. Quel est ton rapport par rapport à ça? Parce que tu disais que certains jeux, tu ne regardais pas les textes ni rien. Quel est ton rapport justement à la critique et aux tests de jeux vidéo?
Alors, pour rebondir sur ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, je me sens pas légitime ni particulièrement calée pour noter ou critiquer un jeu vidéo que peuvent le faire les sites de jeux vidéo comme le font d'autres blogueurs, en fait. Il y a des jeux, je les joue vraiment avec des fois quelques années de retard, si ce n'est beaucoup d'années de retard. Donc, tout a déjà été un peu dit dessus, ça sert à rien de faire une critique, donc autant faire plutôt une analyse ou exprimer ce que j'ai ressenti ou ce que je trouve d'intéressant à creuser dans cette histoire-là, dans ce jeu vidéo-là en tout cas. Alors autant lire des tests, des critiques, ça me gêne pas du tout parce que du coup, pareil, je découvre plein de jeux dont je ne soupçonnais pas l'existence et qui ont l'air intrigants et qui m'intéressent. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça m'intéresse pas particulièrement de faire des notations, de juger sur le gameplay, sur les graphismes. Alors des fois, je peux juger sur plus davantage l'écriture du scénario ou plus la façon dont certains personnages sont creusés. Mais c'est vrai qu'après, faire un test en soi, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, je suis pas spécialement ni légitime ni calée pour le faire, en fait. C'est vraiment pas mon but, c'est tout. Par exemple, les rares jeux que je n'ai pas mis sur le blog, mais que j'ai joué malgré tout, par exemple, c'est les deux derniers Tomb Raider, les nouveaux, là, les reboots. Je n'ai rien mis du tout sur le blog parce que vu que déjà, je ne les ai pas aimés, ça m'a pas aidé. Puis, ben, en fait, j'avais rien à dire dessus. J'aimais pas particulièrement l'écriture des personnages, ni le scénario, ni particulièrement l'ambiance. Donc, j'ai rien dit, j'avais rien à dire dessus, finalement.
C'est vrai que tu essaies quand même plus de faire une sorte de mise en valeur. Tu vas pas venir faire une critique, en fait, pour descendre en flèche une œuvre, en fait.
Non.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Après, on peut faire des critiques négatives, mais moi, j'aime bien ce côté de, tu vas me dire si toi, c'est pareil, prendre du temps et l'énergie pour mettre en avant des choses et de faire de la prescription positive plutôt que de la prescription négative.
Oui, c'est sûr que ça vaut déjà plus. Au niveau du temps et de l'énergie, c'est quelque chose qu'on a aimé plutôt qu'à quelque chose qu'on a détesté. C'est ça qui est le plus intéressant aussi, parce que même s'il y a des jeux qui sont pas parfaits, qui ont des petites imperfections, des petits bugs et tout, au final, c'est pas tellement pour moi des choses qui entravent complètement l'expérience qu'on en a. Ça te gâche pas forcément ton immersion, ça te gâche pas forcément non plus l'histoire dans la façon de le raconter. Bon, sauf problème majeur, mais j'ai eu de la chance, je pense, je suis jamais tombée sur un jeu où il y avait... Je sais pas, une erreur de sauvegarde ou un gros bug qui faisait crasher le jeu ou juste le jeu qui était impossible à continuer, ça m'est jamais arrivé. Donc du coup, plutôt consacrer ce temps-là et cette énergie à dire plutôt les bienfaits du jeu ou dans quoi ça a fouillé, quelle thématique ça évoque, c'est quand même vachement plus intéressant. Et puis ça met aussi un petit peu en valeur toute l'intention des créateurs derrière. Il y a certains jeux, on voit à quel point ils ont du contenu derrière, de l'émotion et du cœur de l'équipe qui a créé ce jeu-là. Alors bon, le jeu n'est peut-être pas parfait, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais s'arrêter à ça et puis dire que finalement, non, ça vaut plutôt 6 que, je ne sais pas, 8 sur 10, juste parce qu'il y a quelques détails, bon, ça fait un peu mal des fois. Quand on voit, il y a certains jeux, ils sont vraiment faits avec le cœur et ça se sent.
Oui, parce que découvrir une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est toujours se connecter avec son créateur ou sa créatrice. Et d'ailleurs, pour parler de connexion avec les gens, avec les œuvres, j'ai vu, ben justement, puisqu'on parlait un peu plus tôt du compte Instagram, j'avais passé des photos où tu avais été, je crois, à la Paris Games Week l'an dernier.
Oui.
Est-ce que c'est des choses, des salons comme ça, alors culturels, je suppose que tu dois y aller, hein. Tu parlais aussi des opéras. Il y a un billet sur ton blog où tu expliques que tu as vraiment accroché à l'opéra après la découverte de, je crois que c'est Carmen de Bizet.
C'est ça, c'était Carmen.
Au niveau des jeux vidéo, est-ce que tu en fais? Là, tu avais fait la Paris Games Week. Est-ce que c'est ta première fois? Est-ce que tu en vas en faire plus? Et est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire peut-être plus tard sur ton blog, s'il y a une évolution, je sais pas. Tu me diras, parler justement de sorte de pérégrination au niveau des salons. Alors, comment ça s'est passé et comment tu l'envisages?
Alors, la Paris Games Week, c'était la première fois que j'y allais. Vraiment, c'était la grande découverte, pouvoir à quoi ça ressemblait. J'avais pu aller voir la présentation de Cyberpunk 2077 qui était très intéressante. C'était un quart d'heure où le présentateur nous jouait le jeu en fait en nous expliquant les possibilités, les différents choix du jeu, les différentes manières du personnage d'approcher un conflit ou un dialogue. C'était passionnant. Je crois qu'il y avait eu la démo de Final Fantasy VII, le remake. Après, oui, il y avait eu des petits essais sur des jeux comme Medieval par exemple ou Luigi's Mansion, le dernier. Et ça, franchement, c'est passionnant aussi à voir. Bon, il y a beaucoup de monde, ça te cache un peu toujours l'expérience quand c'est blindé à fond. Mais c'est super passionnant parce que du coup, tu vois, certes, des tas de jeux en avant-première par moment. Et puis, c'est aussi la façon dont tout est aménagé. Il y avait des stands de third edition, notamment la maison qui s'occupe beaucoup de publier des ouvrages d'analyse sur le jeu vidéo. Et puis après, c'est aussi voir toute la diversité des jeux qui sont présentés parce qu'il y avait autant Cyberpunk que How It Is Trending aussi. Que des petits jeux indépendants. Il y avait un petit coin Uplay qui était aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Et après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je relate encore vraiment sur le blog, parce que bon, ben, c'est une visite. Après, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, à part j'ai testé ci, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que ça peut être une possibilité pour l'avenir. C'est différent quand même d'écrire un opéra après y avoir été ou d'être allé voir une comédie musicale. Enfin, t'as pas d'émotion, ça a pas non plus une durée fixe pendant un temps. C'est...
Oui, il n'y a pas de narration en fait. Enfin, il y a une narration, mais c'est une narration, on va dire, de la vie, des phénomènes comme ça, mais c'est pas une narration, on va dire, créative qui est liée à un auteur ou à une autrice. Donc oui, effectivement, je comprends. Par contre, au niveau de la découverte des jeux, même de l'ambiance, tu avais été avec qui toute seule? Tu étais accompagnée? Comment ça s'est passé en fait? Qui c'est que...
J'y étais allée avec Eve Delo et on avait aussi croisé à un moment Mathieu que tu avais interviewé pour Hunter Player 2.
Avant de glisser vers la dernière partie de l'émission, au niveau du blog, est-ce que tu as des projets, c'est continuer comme ça, ou est-ce que tu as justement des projets que tu voudrais partager à l'avenir pour peut-être le faire évoluer? Est-ce que tu vas faire du feng shui, un réaménagement dans ta chambre, ou ça se passe comment?
Alors j'avoue que là, pour l'instant, je n'y vois pas forcément de réaménagement dans l'interface, enfin, dans le graphisme, non. Je commence à réfléchir un petit peu quel type d'article j'ai un peu plus envie de mettre en avant, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu répétitifs. Enfin, les lectures, notamment, c'est répétitif tous les mois. Ça commence à être un peu long. Et après, en fait, surtout au niveau jeux vidéo, je vais continuer sur ma lignée, mais c'est vrai que j'aimerais bien travailler plus l'aspect que j'avais développé avec l'article sur le steampunk. Là, j'aimerais bien continuer à mettre en parallèle des jeux avec leur genre littéraire dont ils sont issus. Mais c'est vrai que, comme tu disais, ça demande pas mal de recherche, donc ça met du temps à se mettre en place.
Ça joue beaucoup sur l'intertextualité, en fait.
Oui, ça joue beaucoup sur l'intertextualité, parce que déjà, tu as le jeu en lui-même, tu dois savoir est-ce qu'il appartient vraiment au genre littéraire tel qu'il a été défini, est-ce que c'est une variation, est-ce qu'ils ont apporté de nouvelles choses. Et après, effectivement, c'est intertextuel, il faut voir les références qui sont faites au genre ou à notre histoire quand il y en a. C'est quand même un sacré boulot de recherche, de compréhension. Des fois, je me souviens que dans Steampunk, j'ai parlé de certains jeux que je connaissais de nom, un petit peu d'histoire, pour les mettre en parallèle avec le genre, mais j'étais pas sûre à 100% non plus. Il y a quand même beaucoup de recherches à faire là-dessus. Et puis, oui, l'analyse qui est quand même assez profonde. Hein. Parce qu'il faut voir quels éléments ont été repris du genre littéraire en question, comment c'est transposé dans le jeu vidéo, parce que parfois, c'est pas retransposé de la même manière non plus. C'est une sacrée tâche, mais c'est hyper intéressant en même temps de voir comment il peut du coup y avoir pas mal d'hommages, de références. Comment des fois les jeux se font des clins d'œil entre eux, j'imagine que ça, il y en a pas mal. C'est quand même hyper intéressant. Puis c'est marrant de voir que t'as certains genres dans le jeu vidéo qui sont plus abondants que d'autres. Je pense que du coup, il doit y avoir plus de jeux cyberpunk, là, par exemple, que steampunk. Quand tu regardes aussi les jeux vidéo qui ont été adaptés de livres, tu remarques qu'il y a beaucoup de policiers, beaucoup de fantastiques, beaucoup d'horreurs. Enfin, pourquoi du coup, pas du tout les autres genres? C'est un travail de recherche qui est aussi assez intéressant, ça, à faire.
Ouais, mais comme tu dis, ça permet de découvrir d'autres œuvres, d'autres articles, puisqu'après tu mets les liens de ce que tu as découvert.
Oui.
Et ça, c'est un truc bien, ça, c'est un côté bibliothécaire, mais c'est aussi une pratique qui est quand même très intéressante. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, tout simplement. C'est un truc, ça paraît tout bête dit comme ça, mais citer ses sources et les liens et mettre en évidence aussi ce qu'on a récupéré chez les autres, mais c'est quelque chose qui malheureusement se perd beaucoup. Les gens pensent que tout est gratuit, qu'on peut mettre même sans citer, et donc rien que ça, je trouve que c'est quand même bien d'avoir cette démarche-là aussi d'honnêteté intellectuelle. Bah, tout simplement, un, pour aider le lecteur pour qu'il aille plus loin, mais aussi pour mettre en avant encore d'autres personnes qui elles-mêmes mettent en avant, enfin faire de la prescription sur les prescripteurs, je trouve que c'est bien aussi. C'est le but de cette émission d'ailleurs. Je comprends que ça prend du temps de faire ces dossiers-là, mais c'est en tout cas quelque chose que moi j'aurais plaisir à lire, et j'espère que les auditeurs, auditrices auront plaisir à le lire. Et si tu parlais de cyberpunk, bah, j'espère que tu feras pour cyberpunk. Ils ont repoussé le jeu en septembre rien que pour toi, pour que tu aies le temps d'en faire un, donc...
Ah, ça c'était gentil de leur part, ils ont écouté mes pensées, je suppose. Mais oui, effectivement, parce qu'en plus, je voulais pas le faire avec Cyberpunk, je voulais prendre un autre jeu que j'ai découvert il y a déjà un moment, c'est un des seuls jeux sur lesquels j'ai pas fait d'article d'ailleurs, donc oui, je voudrais faire ça. C'est quand même hyper important ce que tu dis, de reconnaître non plus le travail de recherche que tu fais. Bon, ben, tu l'as pas sorti du chapeau comme ça, c'est pas que tes pensées ou que tes réflexions non plus, quoi. Enfin, faut toujours se baser sur ce qui a été dit avant, parce qu'en plus, sinon, tu pars forcément sur quelque chose de faux, enfin. Déjà, tu t'aventures sur un domaine qui n'est pas forcément quelque chose que tu maîtrises de base. Et en plus, si c'est pour s'aventurer à dire des absurdités, non, ça vaut pas le coup. Puis, non, c'est important de reconnaître ses sources aussi, tout simplement. Hein. Tout comme le jeu vidéo, c'est un travail avec toute une équipe derrière. Enfin, là, tu peux pas prétendre sortir toute une analyse du chapeau sans dire au moins sur quoi tu t'es reposé, sur quoi tu as fait tes recherches, qu'est-ce qui a été le plus utile. C'est du plagiat, hein, de toute façon, après.
On va boucler l'émission donc avec ce que j'appelle la LAN party. Ça c'est mon côté parce que j'aimais ça quand j'étais plus jeune. J'avoue que maintenant j'en fais plus. Donc la LAN party, hein, le principe de LAN party, bah, c'était jouer ensemble. On avait ses ordinateurs, on faisait ses parties en réseau local. Et donc c'est adapté aux jeux vidéo. Et là c'est pareil. Hein. J'ai pris cette idée là sur un podcast américain sur Star Wars qu'il avait repris sur un podcast anglais sur Harry Potter où il demande à chaque fois à l'invité 5 personnes avec qui ils aiment, de l'univers en fait en question avec qui ils aimeraient discuter. Alors moi ça sera discuter et jouer. Donc voilà, donc l'objectif c'est ça. La LAN party, c'est tu organises une LAN party chez toi. Soit des personnages de jeux vidéo, mais ça peut être aussi des créateurs, créatrices de jeux vidéo, tu peux mixer les deux. Cite-moi 5 personnes avec qui tu aimerais justement une LAN party pour discuter, jouer et puis parler un peu de tout ça.
Alors, je pense qu'en tout premier, la première invitée d'honneur, ça va être Melina Huygens. Alors, je sais pas du tout si je prononce bien son nom parce que je crois qu'elle est allemande, donc là, j'ai plutôt prononcé à l'espagnol, c'est pas du tout pareil. Melina Huygens, en fait, c'est l'actrice qui donne ses traits à Senua dans Hellblade, en fait. C'est elle derrière la motion capture. Et ce serait passionnant de pouvoir l'inviter à une LAN party, en fait. Tout simplement pour savoir comment elle a réussi. Elle était juste monteuse au tout début chez Ninja Theory. C'est elle qui montait les trailers et puis les petits journaux de développement qu'ils diffusaient sur YouTube. Et en fait, à un moment, elle s'est retrouvée à faire les essais pour mettre en place le personnage. Et puis au final, c'est elle qui est devenue l'actrice carrément du personnage. Donc déjà, rien qu'entendre parler de cette évolution, ce serait super passionnant. Et puis voir comment elle a appréhendé son rôle, puisque c'est pas un rôle facile. Hein. Senua, c'est un personnage qui est psychotique. Il fallait quand même réussir à jouer quelque chose qu'a priori, elle n'a quand même jamais vécu, même si elle s'est inspirée de témoignages. Donc rien qu'elle, je suis sûre, c'est la première que j'invite. Pour parler de son expérience, d'autant qu'elle va continuer sur cette lignée-là chez Ninja Theory. Ensuite, le second, ça va être Olivier de Rivière. C'est le compositeur de Vampire, Plague Tale, Remember Me. J'ai jamais joué au jeu, mais j'ai un petit peu écouté la BO. Elle est super aussi. Et ouais, lui, il a vraiment une façon d'appréhender la musique, de l'impliquer dans le jeu à chaque mouvement, chaque action, qui est passionnante. Puis il a des atmosphères qui sont entraînantes. Enfin, le Plague Tale, surtout, ça m'a saisi. Les sonorités, les instruments qui sont utilisés, t'es au Moyen-Âge, quoi. Rien qu'en écoutant la BO sans même regarder l'écran, c'est quand même magique. Toujours plutôt du côté de ceux qui sont derrière les jeux vidéo, Akira Yamaoka, c'est celui qui était derrière la BO et le son, l'audio, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement le terme, celui qui fait les bruits sonores dans les jeux vidéo. Il était derrière la saga Silent Hill. Et je crois que c'est un des seuls qui a connu à peu près tous les épisodes, en fait. Donc c'est lui qui doit avoir le plus d'anecdotes intéressantes sur la création des Silent Hill, je pense. Puis même au niveau musical, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc lui, ça me plairait bien aussi. Et après, par contre, on passe du côté des personnages de jeux vidéo. Je pense que la quatrième, ça va être Linoa Earty, qui est dans Final Fantasy VIII. Enfin, simplement parce que Final Fantasy VIII, c'était un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué quand j'étais ado, et ça a toujours été un de mes personnages préférés dans les personnages féminins. Elle, juste pour la nostalgie, ça me plairait beaucoup, et puis elle est assez franche du collier, donc ce serait intéressant. Et puis, pour le dernier, j'ai un petit peu hésité. Je pense que Chloé Price, ce serait sympa quand même. Ce serait très sympa de la rencontrer, de Life is Strange.
Ah oui, ça, entre Linoa et Chloé Price, ça peut matcher.
Non, je crois qu'elles se confrontent, hein, les deux, parce qu'elles sont toutes deux hyper franches quand elles le veulent. Hein, donc,
Et tu parlais d'ailleurs au début de l'actrice qui jouait dans Senua, on parlait des personnages, je sais qu'aussi que Senua c'est un des personnages que t'aimes le plus, je crois que récemment t'as tweeté justement sur quels sont vos personnages féminins préférés, ça je crois que c'est toi qui as tweeté Senua, qui est un jeu que j'ai pas encore fait, et à chaque fois que je vois passer quelque chose sur ce jeu là, je me dis il faut vraiment que je le fasse parce que je sais que ça va me plaire.
Ah oui, il est génial. De toute façon là, Linoa, Chloé Price et Senua, oui c'était dans les... Sur les quatre personnages préférés, c'était ils étaient trois dedans, donc elles étaient...
C'est bien aussi de mettre en avant les personnages féminins. Ça se fait de plus en plus, mais ça se fait quand même pas suffisamment. Et c'est quand même toujours intéressant. En tout cas, c'est une belle LAN party où ça pourra parler création, ça pourra peut-être se friter, et aussi musique. La musique adoucit les mœurs, donc peut-être que Chloé et Linoa s'entendront bien dans cette LAN party. En tout cas, je te remercie d'être venu, pour le coup pas à ma LAN party, mais en tout cas dans l'émission. En plus, comme tu l'as dit, c'était la première fois que tu fais de l'enregistrement audio. Je sais que quand je t'avais contacté pour parler, tu m'avais dit « bon, je sais pas trop », et je t'avais dit « bah écoute, le jour où t'as envie, t'y vas ». Et franchement, donc je suis vraiment très content que t'aies décidé de venir, que t'aies accepté de me faire confiance. Voilà, j'espère que t'as passé un bon moment, en tout cas, et moi j'ai beaucoup apprécié cette petite discussion.
Ouais, bah ouais, ça m'a fait très plaisir, et puis bah ouais, comme j'avais dit, c'est aussi un honneur, hein, donc merci beaucoup à toi d'avoir proposé surtout.
Après, honneur, hein, il n'y a pas de certificat, il n'y aura pas de Légion, on n'est pas encore là. En tout cas, je suis vraiment très content, et puis qu'on voit un peu justement ce regard plus que t'as au niveau de ce côté analytique, mais qui analytique, ça veut pas dire non plus qu'il est départi de toute émotion, puisque justement dans tout ce que t'as écrit, dans la manière dont tu ressens le jeu, mais pas que les jeux aussi, il y a ce côté émotionnel, et puis ce côté aussi, comme on l'a dit, de vecteur d'émotion, mais vecteur aussi de réflexion, et donc de prescription, ça vient un peu à le métier de bibliothécaire, donc... un grand merci d'être venu dans l'émission. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir donc Antia's Room, le blog de Lorinda. Vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ton adresse, ça sera disponible dans la description de cet épisode, mais tu peux la dire comme ça, si les gens veulent te suivre. Sur Twitter, on te trouve à quel nom?
Antia.
C'est aussi simple que ça. Donc ça s'écrit Hauntya, et de toute manière, vous l'avez
là. Et 26 derrière. Il y a un chiffre.
Il y a un chiffre. Alors pourquoi 26? Tu étais la 26e ou c'est ton chiffre fétiche? On ne sait pas.
C'est un chiffre fétiche.
Ah bon, mais voilà. Non, mais c'est bon à savoir parce que des fois, les gens pensent que c'est juste le numéro, tu sais, généré comme ça. Donc voilà, on saura aussi
non,
que...
Non, pour le coup, c'est chiffre fétiche.
Bon, ben c'est bon à savoir. Voilà, donc je vous dis au mois prochain, hein, puisque maintenant on est mensuel. Vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur toutes vos plateformes préférées. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous avez aimé, la partager. Et aussi, vous pouvez vous abonner au podcast si vous êtes tenu au courant des nouveaux épisodes. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Et donc, Lorinda, merci d'avoir participé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.